Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.
Et donc nous sommes dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à la révolution russe de 1917. Et pour en parler, nous sommes avec Armand Paris. Bonjour.
Bonjour Paul.
Peut-être que pour commencer, tu pourrais nous dire pourquoi on a décidé de faire cette émission.
Alors en fait, c'est une émission que ça fait un certain nombre d'années qu'on a envie de faire tous les deux. De mon côté, la réflexion a commencé en 2017, quand il y a eu le centenaire de la Révolution russe. Et à cette occasion, j'avais fait deux émissions avec Alexandre Skirda, qui maintenant est mort, qui est un historien anarchiste. Et j'avais été très insatisfait en fait, de l'émission avec Alexandre Skirda, puisqu'il me semblait que, et on va faire un peu l'inverse aujourd'hui, qui tombait un petit peu dans une sorte de vision caricaturale, qui est moins le cas dans ses livres, qui sont intéressants sur l'histoire de l'anarchisme russe. À mon avis, un peu moins sur l'histoire de la révolution russe, mais en tout cas, sur l'anarchisme russe, ça reste des bouquins assez incontournables. Et il opposait un petit peu une sorte de bonne révolution de février, qui aurait été démocratique, sociale, etc., à une mauvaise révolution d'octobre, qui serait une sorte de coup d'État, des bolcheviques. Et puis au milieu, on a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose. Et donc, j'avais été très insatisfait par cette vision un petit peu caricaturale et qui me semblait pas très satisfaisante. Puis j'avais fait une autre émission aussi avec René Berthier sur le bolchevisme. Alors à l'époque, c'est toujours un petit peu le cas, j'avais pas mal de critiques de principes à opposer au marxisme-léninisme. Mais c'est vrai qu'au final, c'était une émission qui était intéressante, mais qui au final en restait finalement à une sorte de critique d'un point de vue anarchiste des textes de Lénine. Et pas du tout, c'était pas du tout une histoire de la révolution russe ou même une sorte d'histoire du parti bolchevique comme mouvement réel avec des militants, des dirigeants, des contradictions, etc. C'était vraiment une critique de Lénine en fait, hein, et une critique idéologique de l'idéologie de Lénine. Et donc, à cette époque, déjà certaines personnes m'avaient indiqué que bon, il y avait quand même beaucoup plus de choses à dire que ça sur la révolution russe, et donc petit à petit, j'en suis venu à, notamment, grâce à toi, à lire les travaux de Marc Ferro, donc le livre « La Révolution de 1917 », qui est incontournable sur ce sujet, et puis un certain nombre d'autres auteurs dont on va parler un petit peu aujourd'hui, sur lesquels on va se baser, notamment tous les historiens de l'histoire sociale de la Révolution russe, qui propose une nouvelle lecture de la révolution russe depuis 40-50 ans, hein, c'est pas tout récent, et qui vont finalement, marginaliser l'histoire politique qui, qu'elle soit faite d'un point de vue anarchiste, qui était celui auquel j'adhérais en 2017, ou d'un point de vue léniniste, qui là aussi pose un certain nombre de problèmes, en fait finalement donner trop d'importance à des individus, des partis, les bolcheviques et les anarchistes, et pas assez, finalement, qu'est-ce qui se passe vraiment en 1917 en Russie?
Oui, on peut dire que les problèmes que tu as évoqués, c'est vraiment le symptôme de cette double lecture apparemment contradictoire, mais qui est en fait assez proche, c'est-à-dire une lecture idéaliste, pour des raisons politiques, de l'historiographie militante, en fait, qui se concentre essentiellement sur les textes, sur les faits des acteurs politiques, et pas sur les changements matériels en profondeur qui se sont déroulés à cette période, et les mouvements de masse qui constituent la révolution russe. C'est vrai que qu'ils soient anarchistes ou pour nombre léninistes ou staliniennes, historiographie militante, comment dire, c'est largement aveuglé sur la révolution russe, on pourrait dire. Je pense que c'est ça qu'on a envie de démontrer et dans cette émission. Mais aussi que tous nos camarades, qu'ils soient léninistes ou anarchistes, de nous faire avancer collectivement sur ce sujet.
Oui, oui, complètement. Et là, bon, il s'avère qu'on enregistre à l'occasion du centenaire de la mort de Lénine, où du coup la question de la révolution russe va revenir et revient sur le devant de la scène. Et puis on sait, voilà, que les lectures léninistes réattirent beaucoup, hein. La star de l'écologie mondiale radicale aujourd'hui, c'est Andreas Malm, qui est un léniniste assez dur. Et en fait, il nous a semblé intéressant de, en fait, bon, vu que les léninistes, un petit peu comme les anarchistes avec 1936, ont une vision assez mythifiée finalement de ce qui se passe en 1917, où ils s'intéressent principalement à leur parti, en fait. Et je suis assez d'accord avec toi que finalement, dans les milieux militants, on est souvent dans une lecture idéaliste des révolutions, c'est-à-dire centré sur les idées, les valeurs, les déclarations, voilà, de tel ou tel dirigeant révolutionnaire, et une lecture aussi avant-gardiste, dans le sens où elle s'intéresse globalement à ce que ces petits groupes, finalement, hein, le parti bolchevique, c'est quelques milliers de personnes, en tout cas au début de la révolution russe, les anarchistes, c'est quelques centaines, quelques milliers ensuite, et en fait, c'est vraiment pas le cœur de la révolution russe, ce n'est pas les bolcheviques et les anarchistes, même si évidemment les bolcheviques et les anarchistes vont y jouer un rôle, mais c'est précisément parce que à un moment, et c'est ce qu'on va tenter de montrer dans cette émission, ils vont rentrer en résonance avec des aspirations plus profondes de la population et notamment des classes populaires. Mais c'est parce qu'ils vont rentrer en résonance avec ces aspirations qu'ils vont jouer un rôle dans la révolution russe. Mais si personne ne les avait écoutés et qu'ils avaient finalement été un peu à côté de la plaque, eh ben, voilà, ils auraient été restés des petites minorités politiques qui font leur truc dans leur coin, comme aujourd'hui voilà, la plupart, malheureusement, des groupes d'extrême gauche.
On pourrait commencer par faire un tableau général de la Russie en janvier 1917, à la veille de cette révolution de février. Qui bouleversera en profondeur les structures sociales de la Russie tsariste.
Oui, alors effectivement, je pense que pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette dynamique révolutionnaire de février à octobre, hein, parce que vraiment, un des partis pris importants de l'émission, et en ça on suit Féro, c'est de dire qu'il n'y a pas une révolution en février, une révolution en octobre, mais il y a un processus révolutionnaire continu de février à octobre, et d'ailleurs on ne peut pas comprendre octobre sans comprendre février. Mais effectivement, il faut quand même, voilà, dire un petit peu où est-ce qu'on en est un petit peu avant. Alors, idéalement, on aimerait bien faire aussi une émission sur ce qui se passe avant la naissance du mouvement ouvrier russe, la révolution de 1905. Mais en tout cas, là, on va pas revenir sur tout ce qui se passe avant 1917. Mais on va dire un petit peu, bon, bah, c'est quoi l'état des forces en présence en janvier 1917. La première chose qu'il faut dire, c'est bon, la Russie est un régime très autoritaire, le régime tsariste, qui gouverne depuis 300 ans la Russie et l'Empire russe même, hein, puisque c'est un empire multinational qui s'étend sur une surface encore plus importante que la Russie actuelle, qui englobe aussi l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Finlande, les pays du Caucase, etc., etc., l'Asie centrale aussi. Et donc c'est un système extrêmement autocratique, qui a connu quelques réformes, notamment l'abolition du servage en 1861 et l'instauration d'une sorte de petite réforme constitutionnelle à la suite de la révolution de 1905. Donc il y a un parlement qui s'appelle la Douma, mais qui en réalité n'a pas beaucoup de pouvoir.
On pourrait dire, pour faire une interjection, que c'est une sorte de système hybride d'un empire féodal précolonial et d'un capitalisme qui vient se greffer et transformer les conditions sociales de la Russie.
Oui, exactement, j'allais y venir. C'est effectivement un exemple un peu de ce que voilà, les trotskistes appellent le développement inégal et combiné, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une structure politique qui est assez ancienne, qui a évolué évidemment au cours du temps, mais qui est une structure assez classique, entre guillemets, d'autocratie, de droit divin. En parallèle, effectivement, il y a eu, à partir des années 1890 surtout, une industrialisation assez rapide de la Russie, assurée à partir de capitaux étrangers, notamment français, ce qui explique notamment pourquoi est-ce que la Russie va s'allier avec la France dès les années 1890. C'est un peu une sorte d'alliance militaire contre des capitaux financiers pour financer l'industrialisation. Et c'est pour ça que la Russie, en 1914, se retrouve, alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles la Russie se retrouve en 1914 du côté de la France et de l'Angleterre dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, contre les Allemands et l'Empire d'Autriche-Hongrie, d'autre part, même s'il y a aussi d'autres enjeux, en gros, les Russes et les Autrichiens hongrois qui convoitent la même zone géographique qui est les Balkans, qui est de là d'où va partir la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement de cette industrialisation, c'est qu'elle va créer une bourgeoisie économique, même si elle est très dépendante finalement des flux financiers internationaux français et britanniques. Et d'autre part, elle crée aussi une classe ouvrière. Et c'est justement par la création de cette classe ouvrière russe, qui est minoritaire encore, très fortement minoritaire en janvier 1917, qui est principalement d'extraction rurale, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ont un lien avec la campagne souvent, qui viennent de la campagne, on n'est pas encore dans le prolétariat moderne, au sens de complètement déraciné, qui représentent quand même quelques millions de personnes, principalement concentrées dans les grandes villes du pays, c'est-à-dire Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et Moscou, et qui a commencé à se manifester politiquement. Alors, dès les années 1890, il y a l'introduction du marxisme en Russie, la création du Parti social-démocrate, qui va éclater en deux entre menchévique et bolchévique. On reviendra sur cette distinction plus tard, mais les bolcheviques, donc associés à Lénine, et les menchéviques, associés plutôt, on va dire, à quelque chose qui ressemble à la social-démocratie allemande, c'est-à-dire l'idée de, on va créer un mouvement de masse, pas forcément légaliste, mais disons, qui se base vraiment sur l'agitation syndicale, le tractage, alors que les bolcheviques vont se tourner plutôt vers l'idée qu'il faut une armée de révolutionnaires professionnels qui va faire la révolution, ce qui se comprend dans les conditions de la Russie de l'époque, puisqu'il faut rappeler que la Russie, à l'époque, globalement, c'est tu distribues des tracts à la sortie de l'usine ou tu planifies l'assassinat du tsar, globalement, tu vas finir alors dans l'ancêtre du goulag, c'est-à-dire tu vas être envoyé dans des camps en Sibérie où potentiellement tu vas mourir, potentiellement pas, parce que c'était pas forcément un exil qui... Tout le monde n'est pas mort dans son exil sibérien. Staline et un certain nombre de révolutionnaires y sont passés et y ont survécu. Mais en tout cas, voilà, il y a en 1917 quand même déjà une classe ouvrière qui certes n'est pas énorme à l'échelle du pays, mais qui est très concentrée dans, à Petrograd et à Moscou. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que du fait que c'est une industrialisation très tardive, c'est le phénomène du développement inégal et combiné dont parlait Trotsky, c'est que les usines sont d'emblée gigantesques. C'est-à-dire que on a des usines, en plus qui sont des usines qui sont converties à l'armement en 1914 pour certaines, on a des usines qui groupent des dizaines de milliers d'ouvriers. Donc autant dire des pépites pour l'agitation révolutionnaire marxiste, qu'elle soit bolchévique, menchévique, ou d'ailleurs je dis marxiste mais aussi anarchiste. Puisque les anarchistes sont présents dans le paysage politique russe depuis à peu près 1905, et bon, ils sont groupés en différentes tendances, les anarcho-communistes, les anarcho-syndicalistes, etc. Mais ils ont quand même un poids relatif. Mais bon, il faut dire quand même qu'après l'écrasement de la révolution de 1905, aux alentours de 1907, tous ces groupes politiques, ils ont survécu en Russie, mais l'essentiel de leur leadership est en exil. Lénine, notamment, est à Zurich, il y en a qui sont au bagne, il y en a qui sont en prison, Nestor Makhno par exemple. Donc tous ces groupes, ils survivent en Russie, mais en janvier 1917, ils sont encore que peu de choses. C'est vraiment avec février, la libération de ceux qui sont en prison ou en exil en Sibérie, ou le retour en Russie de ceux qui sont en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, Trotsky à l'époque et aux États-Unis notamment, Voline aussi. Voilà, c'est donc en janvier 1917, bon, il y a cette classe ouvrière qui est de plus en plus mécontente par les conditions de la guerre, hein, qui bon, déjà que c'était pas joyeux avant la guerre, très bas salaire, répression violente, les conditions de vie des ouvriers étaient terribles en Russie, il n'y avait aucun droit du travail, pas de droit social, les patrons étaient impitoyables. Bon, et en plus, la guerre rajoute des problèmes de logistique, d'approvisionnement, etc., etc. Donc, la situation en janvier 1917, elle est évidemment, elle est explosive.
Oui, sur l'impact de la guerre sur l'économie russe, on peut dire qu'il y a un effondrement de la production de charbon, de la production de trains. En fait, l'ensemble de l'économie russe est vraiment dans un état pitoyable vers janvier 1917. C'est-à-dire que si on faisait un peu de la téléologie, on verrait déjà une société en cours d'effritement bien avant la révolution russe.
Oui, oui, bien sûr, t'as complètement raison. Et cette, finalement, cette crise sociale et politique de l'Empire russe, elle se manifeste aussi dans deux autres secteurs de la population. Donc, on a parlé du mécontentement ouvrier. Et c'est ça qui va déclencher, d'ailleurs, la révolution de février. C'est des manifestations de femmes ouvrières à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, enfin, ce qui deviendra la Journée internationale du droit des femmes. En mars. Alors on dit la révolution de février parce que le calendrier russe et le calendrier ouest européen n'est pas le même, mais peu importe. Mais il y a aussi une crise dans l'armée, c'est-à-dire que c'est la boucherie hein, partout, mais peut-être encore plus dans l'armée russe, parce que c'est une armée qui est sous-équipée, c'est une armée de paysans, alors comme la France, mais encore moins bien équipée, pas très mal ravitaillée, où il y a des rapports hiérarchiques extrêmement durs. Hein. Je veux dire, on est dans une société d'ancien régime où les nobles ont un droit de vie et de mort sur leurs soldats. Les officiers sont quasiment tous nobles. Et donc, il y a des rapports extrêmement violents dans l'armée, et les soldats, au bout de 3 ans, ils en ont marre de se combattre, tout court, et puis ils en ont marre de combattre dans ces conditions, avec une institution militaire qui est aussi oppressive et qui incarne finalement toute la brutalité, la violence sociale de l'ancien régime tsariste. Donc, mécontentement très fort des soldats qui se mutinent. Hein, dès 1916, il y a des désertions massives sur le front russe. Mécontentement des ouvriers. Et quand on parle de mécontentement des soldats, en fait, on parle aussi du mécontentement des paysans, puisque la plupart des soldats sont des paysans. Et puis, il y a même un mécontentement, en fait, de la bourgeoisie, et même d'une partie de l'aristocratie et de la noblesse, qui considère que Nicolas II, le tsar qui est au pouvoir, est un incapable de gagner la guerre. Et c'est une des raisons pour laquelle la révolution de février va triompher relativement facilement, parce que, en fait, le régime tsariste, pas tellement le régime tsariste, mais on va dire la personne du tsar, ne fait plus consensus. Sauf que le problème, c'est que ce qui devait être une simple révolution de palais va capoter. Et en fait, ceux qui vont prendre le pouvoir, derrière, on va en parler, ça va pas être un nouveau tsar, mais ça va être une situation complexe qu'on va appeler le double pouvoir, sur laquelle on va revenir, mais qui en tout cas va faire que la crise politique va aller tellement loin que ça va vraiment, la vague révolutionnaire qui va commencer avec ces manifestations de femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ne va jamais s'arrêter en fait jusqu'à octobre, et même va va se prolonger au-delà. Et peut-être, pour finir, c'est important de dire que il y a aussi une ébullition des nationalités dans l'Empire russe, c'est-à-dire que on y reviendra, mais évidemment, l'Empire russe est composé d'un certain nombre de nationalités non russes, alors à commencer par les Juifs, les Ukrainiens, etc., et que tous ces groupes ont des intérêts antagoniques au tsarisme, hein, sous le tsarisme, les Juifs se sont fait massacrer, les Ukrainiens sont opprimés, etc. Donc, toutes les nationalités, entre guillemets, n'attendent qu'une chose, c'est que l'Empire russe s'écroule.
Ce qui nous amène à la Révolution de février, c'est vraiment la guerre qui est fait éclater à la vue de tous l'inadéquation de ce régime. C'est-à-dire que c'est à la fois un régime qui développe des formes extrêmement modernes et des formes vraiment extrêmement archaïque, notamment un empire précolonial à l'époque où les nationalités émergent, des méthodes de répression des ouvriers dans la grande industrie qui ressemblent, qui s'approchent de méthodes féodales, un capitalisme agraire qui commence à se développer, à l'intérieur des relations féodal russe, avec les réformes post-1905, une colonisation russe en Asie centrale, dans les régions musulmanes, qui fait penser là au colonialisme plutôt européen. On voit que la révolution russe, elle va faire éclater toutes les capacités de ce régime, en fait, qui vont se révéler inefficaces à mener cette guerre moderne, totale, qui nécessite la mobilisation de toute la nation. Mais le problème, c'est que cet État, en fait, est trop archaïque pour mobiliser sa nation et fait face à des mouvements internes qui sont trop puissants. Le simple développement du capitalisme en Russie crée des problèmes de paupérisation extrême et en même temps la création d'une bourgeoisie très grande. Voilà.
Oui, oui, effectivement, on peut se dire que même si la chute du tsarisme n'était pas inéluctable, puisque rien n'est inéluctable en histoire, mais en tout cas que y a la conjonction de la guerre, de tensions inhérentes à toutes les modernisations capitalistes, la montée d'un prolétariat qui se politise rapidement, la montée d'une bourgeoisie qui n'est pas forcément satisfaite avec le fait d'être marginalisée politiquement au sein de l'ancien régime, et puis... évidemment, la personne du monarque Nicolas II qui est incapable et qui vit un petit peu sur une autre planète, on dirait aujourd'hui. Effectivement, tout ça va favoriser l'éclatement de la révolution. Donc on peut dire finalement que la révolution de février, c'est le produit à la fois des tensions de modernisation inhérente à toutes les modernisations capitalistes, notamment dans un contexte de développement inégal et combiné très fort, hein, puisque on a des villes extrêmement industrialisées qui cohabitent avec des périphéries comme la Sibérie, où on est sur des rapports parfois pré-féodaux. Toutes ces tensions vont évidemment être exacerbées par la guerre à laquelle, comme tu as dit, la Russie n'est pas prête, et elle va être encore moins prête du fait de... voilà, notamment du fait que, eh bien, en fait, le régime tsariste est un régime clientéliste, donc les commandes d'armement sont données en priorité la bourgeoisie proche du pouvoir, mais qui remplit pas forcément ses contrats d'armement. Donc, évidemment, la société russe, qui était déjà en crise, hein, de par la modernisation capitaliste extrêmement rapide des années 1890-1900 et qui avait donné lieu à la révolution de 1905, va se prendre la guerre dans la gueule, et c'est ça qui va finalement finir de faire éclater ces contradictions. Et donc, je pense que c'est là où il faut du coup en venir qu'est-ce qui se passe en février 1917. Et peut-être avant de faire ça, je pense qu'il faut présenter un dernier acteur qui va être très important, c'est que là, on a beaucoup parlé de ce qui se passait dans les villes. Mais à côté de ça, la Russie, c'est aussi une société où effectivement, il y a des rapports féodaux dans les campagnes et où les campagnes sont principalement organisées autour non seulement de rapports féodaux, de domination de l'aristocratie, mais aussi autour de communautés villageoises qu'on appelle le Mir. Et ces communautés villageoises, elles ont été un peu mises à l'épreuve par les réformes dont tu as parlé, les réformes de Stoltipine en 1907, où il y a un début de privatisation de la terre dans les communautés villageoises. Mais malgré tout, la communauté villageoise en 1917, ça reste quelque chose d'important. Et c'est important à comprendre pour la suite, notamment pour les années 20 et 30. Mais le parti qui incarne, disons, une idéalisation et une défense de la commune paysanne russe, c'est le parti socialiste révolutionnaire russe, qui vient lointainement des populistes russes des années 1870. Et eux, en gros, leur programme, c'est la terre aux paysans, sous cette forme collective de la commune du Mir, et une république extrêmement décentralisée. Mais ce qui est important à comprendre sur les partis politiques, d'une part, et les groupes sociologiques dont on a parlé, d'autre part, c'est que la ligne politique de ces différents partis avant février 1917 n'est pas forcément celle qu'ils vont appliquer à partir de février 1917. D'autre part, il y a plein. En fait, il va y avoir un éclatement des lignes. Les partis vont se diviser en deux ou trois parfois. Il va y avoir des luttes de tendance, même quand les partis vont rester groupés. Et puis, d'autre part, les groupes sociologiques dont on a parlé, eh ben, ils vont évoluer au fur et à mesure, dans leurs aspirations politiques en tout cas, ils vont évoluer de février à octobre 1917.
Ok, ok. Du coup, on pourrait. Aborder la question de la révolution de février et de ses caractéristiques, de qui la déclenche.
Alors du coup, la révolution de février, si on suit Marc Ferraud, c'est vraiment une révolution qui est anonyme et spontanée, dans le sens où ça commence par des manifestations d'ouvrières du textile. Et puis ça va devenir un mécontentement ouvrier plus général, et puis il y a des soldats qui vont se joindre à ces manifestations, et tout ça, alors c'est extrêmement complexe, parce qu'en parallèle il y a des révolutions de palais qui ont été préparées, qui n'ont pas été exécutées, mais en gros il y a déjà pas mal de cercles de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui veulent remplacer Nicolas II, qui juge incompétent pour gagner la guerre. Donc, tout ça est assez confus, mais ce qui va se passer, c'est que sous la pression populaire, il va y avoir, en fait, la haute aristocratie, les dirigeants de la Douma, etc., vont en fait forcer Nicolas II à abdiquer. Ce qu'il va faire contre son gré, mais il va abdiquer. Et sauf que leur plan, qui était de remplacer Nicolas II par son oncle, comme régent, va capoter. Et en fait, en parallèle de ça, eh bien, vont être formés par des militants socialistes, principalement des mencheviks et de socialistes révolutionnaires, et puis quelques bolcheviks aussi, vont être... Il va y avoir ces institutions qu'il y avait déjà en 1905, qui sont les soviets. Donc soviets en russe, ça veut juste dire conseil, assemblée, voilà. C'est ces nouvelles institutions, disons, qui vont être reformées et qui vont, en fait, dans un Petrograd, ou en fait qui est aux mains des révoltés, des ouvriers, ouvrières et des soldats, ces ouvriers, ces ouvrières et ces soldats vont en fait donner le pouvoir d'une certaine manière, alors par un processus électif, ils vont élire des représentants dans ces soviets, et ce qui fait que en fait au tout début de cette révolution de février, en fait ceux qui ont vraiment le pouvoir à Petrograd, en tout cas j'entends, c'est le soviet de Petrograd, qui est une institution qui a une légitimité révolutionnaire de 1905, et puis qui a aussi une nouvelle légitimité populaire, puisque voilà, les délégués aux soviets de Petrograd ont été élus. Et du coup, leurs dirigeants, ils sont en capacité de prendre le pouvoir, en fait. C'est ça que nous dit Féro, c'est qu'en fait, la Douma et voilà, les restes de l'ancien régime, en fait, ils dépendent un peu du bon vouloir du Soviet. Sauf que le Soviet, il est composé de militants révolutionnaires, bon, qui déjà sont complètement dépassés par les événements, ils ne s'attendaient pas du tout à cette révolution. Hein, parfois, on cite cette anecdote de Lénine. Alors, Lénine, il n'est pas en Russie, mais Lénine, quelques semaines ou quelques mois avant la révolution de 17, il dit « Ah, bah ça se trouve, je ne verrai pas la révolution arriver de mon vivant. » Bon, évidemment, il se trompe, puisqu'il va y participer. Mais donc, tous ces dirigeants révolutionnaires sont complètement pris au dépourvu, et pour eux, dans leur tête, c'est la révolution bourgeoise qu'ils attendaient. C'est pas la révolution socialiste, puisqu'il faut se souvenir que ces militants, alors même les socialistes révolutionnaires, même si eux, ils sont pas dans un logiciel intellectuel marxiste, mais finalement, globalement, ils adoptent un peu la même condition. Leur idée, c'est, là, c'est la révolution bourgeoise, même si les bourgeois, au final, n'ont pas fait grand-chose dans cette révolution, à part un peu la révolution de palais, mais voilà. C'est la révolution bourgeoise, et donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on constitue un contre-pouvoir fort. On laisse le pouvoir à la bourgeoisie, c'est la tâche historique de la bourgeoisie maintenant, c'est de gagner la guerre et de consolider la révolution et de prévenir le retour du tsarisme. Donc nous, on va essayer de faire en sorte que la bourgeoisie accomplisse sa mission historique, qui est le développement de la démocratie, une démocratie sociale évidemment, hein. Tous ces militants, ils veulent quand même des réformes sociales immédiates, comme la journée de 8 heures qui va être rapidement instaurée, etc. Mais ils ne veulent pas prendre le pouvoir, pour eux c'est prématuré, puisque effectivement le prolétariat à cette époque représente une toute petite partie de la population russe, et donc bon, ceux qui sont les plus marxistes considèrent que le prolétariat n'est pas assez développé, et les forces productives ne sont pas assez développées pour opérer une révolution socialiste, et ceux qui sont plutôt du côté populiste, comme les socialistes révolutionnaires, eux ils considèrent que globalement, la priorité, c'est la sauvegarde de la révolution, qu'il va falloir préparer les élections de l'Assemblée, la fameuse Assemblée constituante, dont on va avoir l'occasion de reparler. Donc en fait, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est qu'ils vont donner le pouvoir, en fait, pas tout le pouvoir, mais une grande partie du pouvoir, à ce qui va s'appeler le gouvernement provisoire, qui va avoir l'essentiel du pouvoir légal en Russie, jusqu'octobre 1917, et ce qu'il faut dire sur ce gouvernement provisoire, c'est qu'il est censé être rattaché à la Douma, qui est l'Assemblée, mais en réalité, cette Douma, elle ne va pas jouer un rôle très important pour la suite des événements, donc c'est pour ça qu'on parle d'un double pouvoir, qui est à la fois le pouvoir du Soviet et le pouvoir du gouvernement provisoire. Et le Soviet va mettre en place tout de suite un certain nombre de mesures, notamment le Prikaz numéro 1 qui va relâcher la discipline militaire dans l'armée. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place. On va dire que globalement, l'idée de ce double pouvoir, c'est le gouvernement provisoire qui a le pouvoir législatif et exécutif, mais il faut que le Soviet valide ses décisions. Donc c'est une sorte de... C'est un système un peu bizarre, mais voilà, c'est ça qu'on appelle... En théorie, hein, le double pouvoir tel qu'il va être mis en place à partir des jours qui suivent la révolution de février.
Oui, c'était pour rajouter que on peut dire que la bourgeoisie elle est regroupée dans un parti, c'est le parti des constitutionnalistes démocrates, c'est le parti cadet.
Oui, je pense que tu as tout à fait raison de rajouter ça parce que effectivement les cadets vont, en fait, c'est eux qui récupèrent le pouvoir. Hein. Eux, ils ont tout le pouvoir. À peu près mars à avril, c'est eux qui vont avoir tout le pouvoir. C'est le parti, voilà, de la bourgeoisie russe. Donc c'est typique, hein, c'est voilà, ils veulent une monarchie constitutionnelle. Bon, ils sont pas trop chauds pour l'abolition du tsarisme parce qu'ils sont plutôt pour la monarchie constitutionnelle. Mais bon, voilà, ils font avec ce qu'ils ont. Et ils sont pour évidemment les libertés démocratiques de base. Alors ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Mais dans un premier temps, en tout cas, leur programme, c'est honorer les engagements qu'ils ont pris auprès des alliés, c'est-à-dire continuer la guerre, gagner la guerre et avancer tranquillement, pas trop vite, vers une république démocratique, parce que ça, c'est quelque chose qui caractérise, alors surtout la bourgeoisie russe, mais un petit peu les militants révolutionnaires quand même dans une certaine mesure, c'est qu'en fait, eux, ils considèrent que les Russes, surtout les paysans, sont complètement arriérés, qu'ils sont pas prêts pour la démocratie, etc. C'est pas ce que pensent les militants révolutionnaires, mais les militants révolutionnaires, eux, ils pensent qu'en tout cas, la Russie n'est pas prête pour la révolution socialiste. Et en pratique, ils se précipitent pas trop non plus pour créer la fameuse assemblée constituante qui doit régler un certain nombre de problèmes, la question agraire notamment. On va dire que globalement, l'attitude de la plupart des militants révolutionnaires qui sont au pouvoir au Soviet de Petrograd et aussi des cadets qui sont eux au pouvoir au gouvernement provisoire, c'est en fait de dire « bon, d'abord on gagne la guerre ». C'est la condition de tout. Alors pour les uns, c'est défendre la révolution contre les Allemands. Pour les autres, prévenir, pour les militants révolutionnaires notamment, c'est continuer la guerre pour empêcher que la bourgeoisie bascule du côté de la réaction tsariste. Donc voilà, chacun a ses raisons de continuer la guerre. Mais en tout cas, tout le monde est plutôt d'accord sur on continue la guerre et on repousse l'assemblée constituante qui est censée régler toutes les questions, notamment l'épineuse question de la terre. On la repousse au lendemain de la guerre, ou en tout cas plus tard, quand la situation sera stabilisée. Et évidemment, ça va être la grande erreur, la première grande erreur de ces dirigeants révolutionnaires, que ce soit ceux du Soviet ou ceux moins révolutionnaires du gouvernement provisoire, c'est de penser qu'ils ont le temps et qu'ils peuvent d'abord gagner la guerre et puis régler les problèmes qui agitent les classes populaires plus tard. Et puis leur deuxième erreur, c'est de penser que parce que la population leur a d'une certaine manière donné le pouvoir, en tout cas pour le Soviet, au lendemain de la révolution de février, que c'est un petit peu comme quand on élit quelqu'un pour 5 ans, c'est un blanc-seing, c'est faites ce que vous voulez. Or, en réalité, c'est pas ce qui va se passer, et en réalité, ce dont tout le monde va assez rapidement se rendre compte, c'est que les soldats, les ouvriers, en tout cas à Petrograd, c'est un peu moins vrai ailleurs, mais en réalité, dans les campagnes, c'est assez largement vrai aussi, n'obéissent aux nouvelles institutions révolutionnaires que pour autant qu'elles respectent leurs aspirations et qu'elles vont dans le sens de leurs intérêts. Or, ça va rapidement pas être le cas.
Oui, Marc Ferraud, en parlant de cette aspiration populaire à la fin de la hiérarchie, il en parle très bien et il montre que au bout d'un moment, après février, les instituts... Comment dire, il parle d'un monde à l'envers, quasiment. C'est-à-dire que les institutions ne fonctionnent qu'en ce qu'elles... représente que les masses acceptent leur dire. Et ça va loin, ça va des étudiants aux professeurs, les professeurs d'Odessa, ils se font huer, etc. Les ouvriers, bon voilà.
Ce qui se passe, c'est que souvent on réduit la révolution de février dans l'imaginaire, à une sorte de révolution politique un peu propre, genre, avant, il y avait le méchant monarque, et puis après, il y a une gentille démocratie représentative. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que c'est une révolution totale, en fait. Ferraud dit dans son livre, alors que c'est quand même quelqu'un qu'on peut dire qui était quand même assez à gauche et qui, voit plutôt d'un bon œil la révolution de 1917... il dit la révolution de février, c'est la plus grande révolution qui avait jamais eu lieu. En quelques semaines, des institutions qui ont plusieurs siècles sont abattues, le tsarisme notamment, qui existait quand même depuis le début du XVIIe siècle. Le reste de l'ancien régime s'écroule. L'autorité des officiers est bafouée, les soldats forment leur propre soviet et n'obéissent plus au commandement que de manière conditionnelle, etc., etc. Comme tu as dit, dans les universités, les vieux professeurs ne se font plus obéir aveuglément par leurs étudiants. Il y a également une crise de légitimité de l'Église, qui est attaquée comme complice de l'ancien régime. La domination paternaliste de l'aristocratie dans les campagnes s'effrite très rapidement, puisqu'en fait les paysans, sans attendre personne, vont saisir massivement la terre, en fait la terre des grands propriétaires, etc. Dans les usines, les choses vont se faire un petit peu plus doucement, mais on y reviendra. Mais au bout d'un moment, effectivement, l'autorité patronale va être de plus en plus contestée. En fait, en réalité, elle l'est dès avril, mai surtout, on va dire. Donc, c'est vraiment une révolution totale. La révolution de février, entendue comme ce processus révolutionnaire qui commence en février 1917. Et d'ailleurs, cette révolution totale, elle s'incarne aussi dans la création de nouvelles institutions. Ce qui fait que Marc Ferro dit qu'en réalité, au lendemain de février, on n'a pas un double pouvoir, mais on a un triple pouvoir. Parce qu'en fait, en parallèle du Soviet de Petrograd et du gouvernement provisoire, qui sont censés être ces deux institutions révolutionnaires qui ont le pouvoir, il y a tout un tas de soviets qui sont créés un peu partout dans le pays, dans chaque ville, pas dans tous les villages, mais en tout cas dans certains gros villages. Il va y avoir l'équivalent des soviets aussi qui vont se créer dans les campagnes. Ça va être des comités, etc., qui vont parfois être ceux qui vont prendre en charge la répartition des terres, notamment, qui ont été saisies à l'aristocratie. Il va y avoir aussi les comités d'usines, qui vont petit à petit prendre une place de plus en plus importante dans les usines, dans le contrôle du processus de production, le contrôle des comptes, en fait s'assurer que les patrons ne font pas couler intentionnellement leurs usines, ce qui va être le cas à partir assez rapidement, en fait à partir d'avril-mai, on va dire. Et puis, il va y avoir également les comités de quartier. Alors là, qui se font sur une base transclassiste, hein, mais il y a quand même des quartiers ouvriers, des quartiers bourgeois, évidemment, et là, qui vont s'occuper de pas mal de problèmes, comme les problèmes de logement. Donc c'est eux, notamment, qui vont procéder notamment des réquisitions de logements, ou par exemple, disons, des bourgeois qui vivaient dans 7 pièces, dans un appartement de 7 pièces, ben, on va leur laisser une ou deux pièces, et puis ils vont partager... Alors souvent, ils sont pas très contents, évidemment. Ils vont devoir partager leur logement avec des familles ouvrières. Et donc voilà, on a ces institutions auxquelles, évidemment, se rajoutent les deux institutions qui existaient déjà avant, les partis politiques qui sont de nouveau légalisés, et puis qui se remplissent, hein, puisqu'il y a à la fois le retour des exilés de Sibérie, des exilés d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et puis, d'autre part, ben, il commence à y avoir petit à petit, on en parlera plus longuement, l'afflux de nouveaux militants. Et puis, autre institution qui avait déjà un peu existé en Russie, mais qui l'a renaît vraiment de ses cendres, c'est les syndicats. Donc là, sur lesquels je ne m'étale pas, puisque bon, tout le monde sait à peu près ce qu'est un syndicat.
Oui, on peut dire que Marc Ferro décrit le triple pouvoir de cette façon, comme en réalité... Le pouvoir du soviet de Petrograd et des soviets de militants qui sont à Moscou aussi et le gouvernement provisoire ne forment en réalité une sorte de dualité complémentaire parce que le milieu militant, en fait, sa sociologie d'intellectuel occidentaliste bercé dans les lumières, bercé dans la pratique militante occidentale et la bourgeoisie d'affaires qui influence le gouvernement, au final ont des intérêts en commun qui sont la préservation de l'équilibre instable qu'ils ont créé, la victoire de la guerre, la stabilisation de l'économie, et en fait du coup le triple pouvoir se construit comme en opposition sans le vouloir lui-même de ce double pouvoir. Rapidement, il va y avoir des contradictions entre le soviet et la base, entre le gouvernement provisoire et la base. Et même, on le voit, ce processus Ce processus, on le voit à l'œuvre aussi dans la façon dont sont élus les membres des soviets, des soviets des militants. Les premiers membres du soviet de Petrograd, c'est des anonymes. Il y a énormément d'anonymes dans le comité central du soviet de Petrograd au début. Et peu à peu, ces gens-là, ils disparaissent. Ils sont remplacés par des militants nommés ad hoc, sans élection. C'est-à-dire que les partis dans les soviets, ils se découpent les places en fonction de leur influence présumée, sans élection. Genre, par exemple, dans ce soviet, on va dire, du coup, on va donner 2 sièges d'office pour les SR, 3 sièges pour les mencheviks, et 2 sièges pour les trudoviks et 1 siège pour les bolcheviks. Et c'est ce phénomène de. Voilà, c'est un phénomène de bureaucratisation qui est lié au triple pouvoir, en fait. Au fait que la démocratie révolutionnaire rapidement devient une bulle accrochée aux institutions bourgeoises de la République.
Oui, oui, t'as tout à fait raison, et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, c'est des forces politiques, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, qui, à part leurs franges qui vont se rallier aux bolcheviks, qui eux vont avoir une influence un petit peu plus durable, mais enfin ils vont être balayés en fait parce que en fait attachés à un régime qui va devenir radicalement impopulaire auprès des classes populaires, et effectivement ils sont en contradiction avec les aspirations profondes de tout le monde. Les paysans, ils veulent la terre, or ces institutions. Donc là, je parle du soviet de Petrograd, et les partis qui participent à la coalition dirigeante du soviet de Petrograd, c'est-à-dire les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, et les trudoviks que tu as mentionnés, qui sont, on va dire, un peu à droite des socialistes révolutionnaires, pour rester schématique, qui sont des sortes de socialistes modérés, on va dire, donc Kerensky est assez proche. Eux, finalement, ils disent « oui, la question agraire, c'est très important », mais on la résoudra après l'Assemblée constituante, enfin au cours de l'Assemblée constituante, et l'Assemblée constituante, c'est pas pour tout de suite, il faut que les conditions soient réunies, etc., etc. Et donc finalement, ils vont condamner fermement les expropriations menées de manière spontanée par la paysannerie dès les mois de mars-avril 1917. Donc, les paysans ne vont pas se reconnaître très rapidement dans le régime de février. C'est la même chose pour les ouvriers. Passé les premières semaines où il y a une grande conciliation avec les patrons qui vont accepter un certain nombre de revendications, passé ces quelques semaines, les patrons vont vouloir déjà considèrent que bon, le temps des concessions est terminé, qu'il n'y a plus de menaces révolutionnaires qui planent, que c'est la guerre, que les conditions sont dures, etc., etc. Et c'est vrai que la situation économique est complexe, même si en réalité, il y a quand même un certain nombre d'entreprises capitalistes qui continuent de faire des profits importants. Et donc, les patrons vont changer complètement leur fusil d'épaule et vont devenir intransigeants, hein, comme ils l'avaient été sous le tsarisme, et vont en fait aller jusqu'à, lorsque le mécontentement ouvrier sera trop important, à procéder à des lockouts, c'est-à-dire en fait foutre tout le monde dehors. C'est un peu une sorte d'équivalent de la grève pour les patrons. Et carrément, parfois, vont saboter la production, hein, c'est les mots de Marc Ferraud. Faire en sorte, par exemple, de ne pas prendre de commandes, faire en sorte de ne pas passer les bonnes commandes de matières premières, etc., pour pouvoir dire aux ouvriers « Ah bah l'usine, en fait, elle peut plus tourner, donc je suis obligé de tous vous renvoyer, il va falloir que l'usine ferme. » Et donc, il y a vraiment ce processus inconscient, et donc, évidemment, les ouvriers sont furieux, et c'est ce qui va petit à petit les amener à l'idée du contrôle ouvrier. C'est-à-dire qu'il faut que les ouvriers puissent vérifier les comptes, vérifier les commandes, supervise un petit peu le travail des patrons, entre guillemets. Et puis, petit à petit, ils vont aller vers des idées plus radicales. Le contrôle ouvrier va d'ailleurs être mis en place, hein, dans un certain nombre d'usines, il va y avoir des tentatives autogestionnaires, entre guillemets, notamment dans les petites et les moyennes entreprises. Dans les grandes entreprises, on va en rester au contrôle ouvrier, parce que, bon, bah, évidemment, les processus techniques sont beaucoup plus compliqués. Et c'est vrai que les ouvriers veulent contrôler les choses à l'usine, mais disons qu'ils ne sont pas tous certains de vouloir autogérer les usines. Notamment dans les grandes usines, ils sont quand même pas mal pour l'idée de nationaliser les usines, pour pouvoir bénéficier notamment des subventions de l'État, etc. Donc ils sont conscients aussi de leurs limites et de leurs difficultés. D'ailleurs, les expériences, en tout cas si on suit Féro, les expériences autogestionnaires dans la Révolution russe sont principalement des expériences qui sont contraintes par les stratégies patronales de sabotage de la production et des expériences qui ne vont pas forcément être réussies. Alors, bon, c'est un contexte de guerre, il y a des problèmes d'approvisionnement, etc. Et je pense que, bon, on peut dire de ce type d'autogestion la même chose que l'autogestion dans la société capitaliste, c'est-à-dire que dans le cadre d'une société capitaliste, l'autogestion, c'est extrêmement complexe, puisque du coup, on est dépendant d'autres agents économiques qui, eux, sont capitalistes et qui imposent, du coup, la loi du marché. Donc, je pense qu'on pourra peut-être en rediscuter plus tard de cette question de l'autogestion. Mais enfin, en tout cas, les ouvriers sont radicalement, eux aussi sont aussi radicalement mécontents et ils vont de plus en plus avoir une défiance extrêmement forte vis-à-vis du régime de février et y compris du soviet.
Oui, après c'est une analyse personnelle, mais je crois que Marc Ferrand en parle aussi. La bourgeoisie russe semble très... une bourgeoisie assez immature, déliée, qui ne comprend pas vraiment ses propres intérêts. C'est-à-dire que c'est une bourgeoisie qui va mettre des bâtons dans les roues au gouvernement de Kerensky, qui est le socialiste qui va rentrer dans le gouvernement provisoire. C'est-à-dire, c'est quand même un compromis important, c'est-à-dire que les socialistes qui prétendaient donner tout le pouvoir à la bourgeoisie, au final, vont rentrer dans le gouvernement. Et en fait, la bourgeoisie, elle va jouer une sorte de double jeu. Et je pense que ça s'explique très bien par le fait que c'est une bourgeoisie qui est très liée aux intérêts capitalistes internationaux, qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun intérêt à céder du terrain, qui ne croit pas dans le fait de céder du terrain, contrairement par exemple à la bourgeoisie allemande, qui se contentera très bien de travailler avec les sociodémocrates qui tendent leurs mains avec insistance. Là, Kerensky tendra sa main avec insistance, mais la bourgeoisie continuera à jouer une partie solitaire. C'est-à-dire que c'est ça qui fonde la complexité de la position de la social-démocratie en Russie, c'est que la bourgeoisie, elle est n'est pas au point où elle veut, où elle les reconnaît totalement leur légitimité d'exercer le pouvoir, quoi.
Oui, oui, bien sûr, t'as raison d'insister là-dessus. La bourgeoisie, en fait, très rapidement, va être hostile à toute forme de compromis avec la classe ouvrière. À partir du moment où il va y avoir la crise d'avril, c'est-à-dire, en fait, le ministre des Affaires étrangères, il va y avoir la révélation du fait que le ministre des Affaires étrangères, qui est un cadet, Milyukov, en fait, a dit aux alliés, on continue la guerre, il n'y a rien qui a changé. Alors même que le Soviet, avec l'accord du gouvernement provisoire, avait publié un texte comme quoi, bon, désormais, ce qu'il voulait, c'était la paix, sans annexation ni compensation territoriale. Donc, il va y avoir donc à ce moment-là un changement de gouvernement. Les socialistes modérés vont rentrer dans le gouvernement. Kerensky, notamment, va rentrer comme ministre de la Justice. Et puis, ce qu'on peut dire globalement, c'est que petit à petit, le gouvernement provisoire va incorporer, pas forcément de plus en plus de socialistes modérés, mais en tout cas va incorporer des socialistes modérés jusqu'au bout. Donc, on n'est plus dans un gouvernement exclusivement cadet. À un moment, les cadets vont carrément partir du gouvernement. Et les cadets, globalement, ils représentent assez bien la bourgeoisie, puisqu'en fait, au bout d'un moment, les cadets vont, vont, à partir de juillet-août, les cadets, ils considèrent que il faut plus soutenir ce gouvernement et que la solution, c'est une dictature militaire. Bon, ça, on y reviendra. Mais comme tu dis, en tout cas, la bourgeoisie russe va assez rapidement devenir intransigeante et c'est pour ça qu'elle va se rallier assez facilement à partir de juillet à l'idée que, en fait, la seule solution, c'est une dictature militaire, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, en fait, ce régime de février, il va rapidement être... il va à la fois encourager et être victime d'une polarisation sociale. C'est-à-dire que dans la mesure où il ne va pas dans le sens, d'une part, des paysans, des ouvriers, des soldats, je n'en ai pas parlé, mais les soldats, eux, ils veulent la fin de la guerre le plus vite possible. Et puis, au bout d'un moment, quand ils se rendent compte que une des raisons pour lesquelles la guerre est perpétuée, c'est pour maintenir justement les rapports de domination et de violence de l'ancien régime sous prétexte que c'est la guerre et qu'il faut obéir à ses commandants, etc. Bon, bah, les soldats, là, de plus en plus, vont être favorables à une paix immédiate. Et donc ça, c'est pour les soldats. Et ensuite, il y a les nationalités. En fait, le gouvernement provisoire, malgré quelques belles proclamations, et le soviet aussi, vont ignorer globalement les aspirations, soit à l'indépendance, soit à l'autonomie, soit à la reconnaissance culturelle, etc. etc. Donc en fait, d'un côté, il va y avoir tout un tas de forces qui vont être insatisfaites du gouvernement, dans le sens où il ne va pas assez loin dans la transformation sociale, dans l'accompagnement de la transformation sociale qui est souhaitée. Et d'autre part, la bourgeoisie, elle trouve que déjà le gouvernement provisoire et le soviet de Petrograd, ça va beaucoup trop loin. Et eux, au contraire, ils veulent aller vraiment à l'opposé, c'est-à-dire vers la dictature militaire. Donc d'une certaine manière, au bout d'un moment, en fait, le gouvernement provisoire ne va plus avoir d'autorité que légale. Alors, elle va avoir un peu d'autorité charismatique grâce à Kerensky, qui est un très grand orateur, qui est quand même auréolé du prestige qu'il a à la fois fait partie du soviet et du gouvernement provisoire. Il vient plutôt des socialistes modérés quand même. Il arrive quand même à remobiliser les soldats quand ils passent sur le front. Puis très rapidement, les soldats, ils l'oublient. Mais c'est rapidement un gouvernement. D'ailleurs, à la fin, c'est devenu une dictature personnelle de Kerensky, hein, ce qu'on oublie souvent. Et donc, petit à petit, on va s'acheminer vers une crise de légitimité quasiment totale du gouvernement provisoire. Ce qui va se passer, c'est que là, on a expliqué, disons, les tendances de fond qui vont amener, en fait, aux journées de juillet, puis au putsch de Kornilov, puis à la révolution d'octobre. Mais on va d'abord marquer une pause musicale avant d'entrer, voilà, dans cette dynamique de fond qui va emporter le régime de février et va déboucher sur la révolution d'octobre.
Je pisse sous la douche, jamais tracé de lignes blanches pour ne pas rester sur la touche. Esprit étanche, parole rare de mon millefeuille, c'est la première couche. Je suis pas un mec lambda, le ventre de la daronne, la lambda, Aladdin. Capable du meilleur si je ne glande pas. Problème, je glande trop de flemme, c'est une deuxième nature. Je passe crème dans vos oreilles en secret, retranscrit mes pensées quand je crée. Eh, tège les barrières, protège tes arrières, laisse les tapes les parias. 12 étapes nous séparent, ya. Je vois loin comme girafe, trop de skill. Je vois rose comme Piaf, rouge comme Trotsky. Je ne m'attends à rien avant sans me retourner. Mon destin est comme un rêve, le script écrit par un mec bourré. Hey. Unique, unique, on est unique, mais on est uni, ouais. Nique l'uniforme, lyrics univoque, je n'y vois que du feu. Unique, unique, on est unique, mais on est uni, ouais. Dans ma bulle, personne va la percer. Je persévère sur des feuilles en itinérance. Sur le seuil, des égouts pour effleurer le ciel. Entre les râles et vautours, dis-moi. dis-moi quelle différence. Jeunesse sans gêne, veux que tu la laisses en paix. Veux pas de tes chiennes, veux pas te ressembler. Veux pas de ta chienne de vie, on vise mieux que ça. Fiché par l'état, j'arrive du que ça. Méfiance envers ceux qui prêchent le vrai. Mais qu'est-ce que c'est, je m'attends plus à rien. Comme quand tu dis, après je le ferai. Je devrais œuvrer pour le bien, mais qu'est-ce que c'est. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, au fond n'est qu'un tas de confettis. Je commence à croire qu'on est tous cons. Je cristallise tes peurs comme au Dakota. Quand quelqu'un crie, Staline ou Black Power. Black Power. Si seul, dans mon cerveau, je mentalise. Quand je me sens mal, je me vandalise. Hey. L'ascension est folle, la chute est rapide. J'enregistre en studio mes sessions thérapie. Unique, unique, on est unique, mais on est unis, ouais. Nique l'uniforme, lyrics univoque, je n'y vois que du feu. Unique, unique, on est unique, mais on est unis, ouais. Calme, comme un soir où il a plu, c'est le calme. Comme avant la tempête ou après, je sais plus. La boussole est morte, le nord est partout. Ce monde est cassé, la mort répare tout. Mais la vie c'est bricoler, sortir les chicots, rigoler. Un jour pain sec, le lendemain rioler. Stoïque tel un rock, j'ai marqué l'histoire et leur historique. Je retire les tessons du ciment. Tu veux percer, ferme-la, bien mûr, n'arrête le silence. Silence, silence.